Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, bienvenue dans La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire, aujourd'hui, l'info du jour, un apprenti boulanger guinéen sans papier soutenu par ses patrons. Interview d'Eugénie Cazot, docteur en géographie, en amont d'un café des sciences, de la musique dont une nouveauté, la rediffusion de l'échange sur un documentaire autour des profs d'université, et puis recommandation, c'est la fête de l'automne. Bienvenue dans La Reine. Allez, on commence avec l'info du jour. Un apprenti boulanger guinéen soutenu par ses employeurs alors qu'il est menacé d'expulsion. C'est à lire entre autres sur le site de France 3 Bretagne. Souleyman Barry, c'est son nom, il a 20 ans. Il est arrivé en France en 2019. Il était mineur non accompagné et a donc été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il se lance rapidement dans des études. En l'occurrence, un CAP boulangerie du côté de Saint-Malo et son lieu d'apprentissage, c'est une boulangerie rennaise. Au printemps 2023, il fait une demande de titre de séjour qui lui est refusée. Motif invoqué, un doute subsiste sur son identité en raison d'empreintes digitales qui lui auraient été subtilisées au moment de son exil de la part de passeurs. Le refus de ce titre de séjour n'est pas accompagné d'une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, mais le résultat c'est quand même qu'il est empêché de travailler légalement. Souleyman venait de signer un CDI avec la boulangerie où il a fait son apprentissage. Il s'agit de la boulangerie Ange, rue de Saint-Malo, qui est un des établissements du deuxième réseau de boulangerie en France. Bref, son patron énumère à la presse les qualités du jeune Guinéen, certain qu'il, je cite, aura sa boutique un jour. Une pétition a été lancée en ligne dans la foulée par ses employeurs, à retrouver sur le site change.org et réunit près de 28 000 signatures. Ça, et puis la sollicitation de la part de ses patrons, d'une association qui est spécialisée dans ces situations, c'est l'association Patrons Solidaires. Des élus locaux qui vont de la NUPES jusqu'à Renaissance ont également été interpellés. La députée rennaise Laurence Maillard-Meignery, étiquette Renaissance, en profite pour vanter dans la presse l'intérêt du projet de loi immigration à venir qui résoudrait ce genre d'impasse. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, une interview. Eugénie Cazot, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au laboratoire LETG pour littoral, environnement, télédétection et géomatique, un laboratoire qui est installé pas très loin de Brest, et vous êtes l'invité du prochain Café de l'Espace des Sciences. Rendez-vous pour vous rencontrer au Café des Champs Libres à Rennes, mercredi 20 septembre à partir de 18h30 pour parler immobilier et littoral. Avant d'arriver à votre sujet d'étude et de recherche qui sera abordé mercredi, un mot rapidement sur votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé d'abord à vous diriger vers des études en géographie, puis à vous spécialiser un peu sur le risque côtier ?
Pour les études en géographie, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. C'est bizarre peut-être de dire ça, mais j'ai fait une première année de médecine après mon bac scientifique qui a un petit peu avorté assez rapidement, on va dire. Et puis j'ai passé mon second semestre de l'année 2010 à savoir un petit peu où j'allais me réorienter. J'avais un ami à l'université de Bordeaux-Montaigne qui avait commencé une licence de géographie, qui m'a invité à venir suivre quelques cours en amphithéâtre. J'ai trouvé ça absolument génial, ce lien justement entre société humaine et aménagement du territoire. C'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et du coup, j'ai fait un cursus complet en géographie, voilà. D'abord à Bordeaux, puis ensuite à Paris, en Panthéon-Sorbonne, mon master. Un master où je me suis progressivement spécialisée sur les risques naturels. Et enfin, ma thèse à Brest, à l'Université de Bretagne Occidentale, où là, je me suis encore plus spécialisée, cette fois sur la question des risques littoraux. Et après, sur pourquoi je me suis tournée vers les risques naturels et plus spécifiquement les risques côtiers. Les risques naturels, j'ai découvert ça en licence 3 de géographie. Et en fait, ça faisait écho, on va dire, à mon parcours personnel. Au début des années 2000, mes parents ont emménagé dans une maison en zone inondable dans les Landes. On ne savait pas du tout qu'elle était inondable hein, quand ils ont emménagé dans cette maison. Mes parents n'avaient pas eu d'informations et l'exposition n'avait pas quelque chose de visuel dans le paysage. On ne voit pas le cours d'eau qui inonde cette maison. Et du coup, on a eu des inondations à répétition à partir de 2004 dans la maison. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué. Et puis après, du coup, en janvier 2015, dans le cadre de mon stage de Master 1, je suis rentrée au ministère de l'Environnement à l'époque, à la Direction générale de la prévention des risques, et sur un stage sur la gestion des risques d'inondation. Et puis progressivement, comme ils m'ont gardé en alternance, j'ai basculé sur les risques côtiers, et notamment à la période où la question de l'évacuation de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer prenait de plus en plus de place, on va dire, à la fois médiatiquement et même dans les sujets à traiter au sein du bureau auquel j'étais rattachée. Et du coup, j'avais appris, dans le cadre de mes missions là-bas, qu'au début des années 2010, il y avait encore des propriétaires qui avaient fait l'acquisition d'appartements dans la résidence Le Signal à Soulac-sur-Mer à des prix qui étaient peut-être complètement aberrants au regard de l'exposition à l'érosion côtière de ce bâtiment qui a été évacué à peine 4-5 ans plus tard.
Soulac-sur-Mer, qui est une commune du sud-ouest de la France, dans une région touchée par le recul du trait de côte. Juste au passage, je le dis, on retrouve votre nom sur une plateforme que les auditeurs ne connaissent peut-être pas, qui s'appelle Experte, qui vise aujourd'hui à recenser les interlocutrices au féminin, expertes sur différents sujets, pour espérer un jour avoir une mixité réelle dans les paroles d'experts au niveau médiatique. Et alors justement, j'ai l'impression que votre sujet de recherche intéresse pas mal les médias locaux et nationaux. Tous les docteurs n'ont pas cette visibilité là dont vous bénéficiez aujourd'hui, peut-être parce que les effets du réchauffement climatique semblent s'accélérer. Vous le liez à ça, cet intérêt ?
Oui, je pense que ça fait en effet partie de l'intérêt qu'il y a autour de mon sujet de thèse. Après, la soutenance de ma thèse est tombée en quelque sorte au bon moment. On en parlera peut-être plus tard, mais la loi Climat et Résilience qui est venue apporter de nouveaux dispositifs pour gérer les biens concernés par l'érosion côtière a été adoptée à l'été 2021, au mois d'août 2021. Aujourd'hui, on est en train de voir passer les décrets d'application de cette loi. Donc voilà, ça venait s'inscrire dans un contexte législatif en pleine évolution, cette soutenance. Donc ça explique sans doute une partie de l'intérêt. Et puis aussi, sur la période post-Covid, on va dire, les enjeux de tension immobilière sur le littoral se sont très clairement accentués. Voilà, une augmentation continue des prix, un fort attrait qui continue à se confirmer pour le littoral. Et puis des problèmes pour loger en fait les populations locales en fait qui se retrouvent un petit peu évincées des marchés immobiliers côtiers. Donc tout ce panorama, on va dire, en termes d'actualité, a fait que j'ai été finalement pas mal sollicitée. C'est sûr que j'ai de la chance de pouvoir valoriser vers le grand public mes travaux de recherche et j'en profite bien.
Votre analyse, vous venez d'en donner quelques éléments, mais c'est la suivante. Malgré une exposition croissante aux risques côtiers, le prix des logements sur le littoral ne baisse pas, au contraire. Sur les risques côtiers, il s'agit avant tout de l'érosion qui est naturelle, mais accentuée par l'augmentation du niveau de la mer. Je dis pas de bêtises si je l'explique comme ça ?
Non, vous dites pas de bêtises. En gros, aujourd'hui, on a un cinquième, on va dire, du littoral métropolitain qui est concerné par l'érosion côtière à des degrés qui restent divers quand même. Un des points chauds en France, par exemple, c'est la côte Aquitaine. On en parlait tout à l'heure avec l'immeuble Les Signals, où par exemple, durant les tempêtes de l'hiver 2013-2014, on a eu par endroits des reculs en seulement quelques semaines de 30 à 40 mètres. L'immeuble Signal, pour reparler de ce cas spécifique, dans les années 60, il est construit à peu près 200 mètres du trait de côte. En janvier 2014, quand il est évacué par les services de la préfecture, il ne se retrouve plus qu'à 9 mètres du bord de la dune. Voilà, on a des taux de recul qui sont différents en fonction des types de côtes, hein, qu'on soit sur la côte sableuse, de la côte à falaise, en fonction du type de falaise aussi, on va avoir des choses différentes. Après, il faut pas oublier quand même le volet submersion marine. On a plus d'un million de résidents du littoral français qui sont exposés au risque de submersion marine. Et l'événement d'ampleur de ces dernières années, c'est la tempête Xynthia de 2010, qui a fortement touché les départements de Vendée et de Charente-Maritime, particulièrement la commune de La Faulte-sur-Mer, où on dénombre 29 morts. Et Xynthia, c'est quand même 41 morts directement liés aux submersions marines. Donc submersion marine, pour resituer aussi, c'est en fait une inondation temporaire par de l'eau salée, en fait, lors d'un événement météo marin. Donc on a ces deux grands risques côtiers qui sont présents aujourd'hui sur le littoral métropolitain et sur un certain nombre de secteurs. Il y a vraiment une conjonction entre ces deux phénomènes. Voilà.
C'est dans le cadre de votre thèse que vous, alors je veux dire que vous vous êtes amusé, je ne sais pas si c'était amusant, mais que vous avez décortiqué les prix de l'immobilier sur le littoral français, soit 2 millions de transactions effectuées entre 2010 et 2016 sur un ensemble de 3000 communes, dont se dégagent des prix élevés. Ça ne baisse pas, voire ça continue à augmenter avec peut-être un effet un peu crise sanitaire ensuite qui a nourri un peu ce rêve d'avoir la maison en bord de mer.
Oui, tout à fait. On a des prix très élevés qui continuent à vraiment, qui continuent aujourd'hui à vraiment s'envoler. Il y a très clairement eu un effet Covid en fait sur les marchés immobiliers, même si j'ai pas de données, j'ai pas étudié de données récentes pour l'étayer, mais on a eu des progressions fortes des prix depuis le printemps 2020. Donc oui, il y a un attrait pour le littoral qui se maintient très clairement avec, j'utilise une expression dans le travail de recherche que j'emprunte à un historien qui s'appelle Alain Corbin, c'est le désir de rivage, quoi. C'est cette attraction, en fait, des aménités, des atouts liés à la proximité de la mer, qu'ils soient paysagers ou récréatifs, qui fait que, voilà, les gens continuent à vouloir s'installer en bord de mer, envers et contre tout. Et cet aspect aménité, donc atout de la mer, ça occulte aujourd'hui complètement l'aspect exposition en risque côtier dans la tête des gens. Aujourd'hui, on peut considérer qu'en fait, les gens, ils n'ont pas conscience qu'ils achètent un bien exposé à ces risques, qui peut parfois même menacer leur vie humaine, ou un bien qui pourrait être amené à disparaître dans les années à venir.
Pour continuer à expliquer un petit peu là, ce fantasme qui semble inaltérable, fantasme pour la maison en bord de mer, alors qu'a priori d'ici la fin du siècle, un certain nombre de maisons ne seront plus là, vous détachez plusieurs profils en fait de propriétaires. Il y a certes ceux qui ne sont pas forcément conscients, qui ont un fort patrimoine financier et qui fonctionnent au coup de cœur. Il y a aussi les investisseurs et les retraités qui ne seront sans doute plus là pour voir leur maison d'ici 2100.
Exactement. Dans le cas de la thèse, je distingue trois profils que vous venez de citer. En fait, j'ai distingué ces profils sur un type de bien spécifique. C'est des biens menacés de disparition à plus ou moins court terme par l'érosion côtière. Donc, c'est des profils qui sont notamment beaucoup revenus sur mon terrain d'étude que j'ai effectué en Gironde, sur la communauté de communes Médoc-Atlantique. Et du coup, ils sont au nombre de trois. Voilà. L'investisseur qui fait de la location saisonnière, qui est dans un objectif de rentabilité à très court terme et qui va tout simplement faire un calcul de rentabilité sur quelques années, qui sait qu'en 5, 6, 7 ans, en louant à tel prix, il aura rentabilisé l'acquisition de son bien et que tout ce qui viendra après, ce sera que du bonus pour lui. Donc, c'est des acquéreurs, en quelque sorte, qu'on aura jusqu'au bout, tant que l'attractivité touristique des territoires littoraux sera celle qu'elle est aujourd'hui, on va dire. Ensuite, on a le profil des retraités que j'appelle, après moi, le déluge, on va dire, dans le cadre de la thèse. C'est-à-dire des personnes globalement assez âgées, enfin pré-retraitées ou retraitées, qui sont pas forcément dans des logiques de transmission patrimoniale à leur famille ou à leurs enfants, et qui, eux, ont envie de profiter de leur retraite et d'ouvrir tous les matins les volets, de profiter des embruns, de profiter de la vue mer, et qui savent que d'ici que le risque se matérialise concrètement et que leur bien soit menacé très, très directement, ils seront soit en maison de retraite, soit décédés. Donc voilà, c'est des achats avec une vision court-termiste. Enfin, troisième type d'acquéreur que vous avez cité, qui est peut-être quand même plus anecdotique, C'est des gens qui ont un extrêmement gros patrimoine, on va dire. C'est des gens qui sont prêts à mettre 3, 4, 5 millions d'euros dans des biens qu'ils visitent parfois en une heure et qui ont un véritable coup de cœur. Et puis, c'est pas grave s'ils doivent déménager ailleurs. En fait, c'est souvent des gens aussi qui sont multipropriétaires et qui, du coup, n'ont pas le même rapport à l'acquisition que d'autres personnes.
Vous avez parlé de désir de rivage. Les élus à l'échelle politique, ils se saisissent de ce sujet pour tenter de le réguler, ce désir de rivage. Il y a surtout eu la loi Climat et Résilience de 2021 qui rend par exemple obligatoire la publication dans l'annonce immobilière du placement ou non du bien en zone à risque. Un droit de préemption a aussi été prévu pour que les communes puissent passer en priorité pour acheter des biens qui sont menacés. Et puis en août, là plus récemment, un décret a été publié pour accompagner des communes qui sont concernées par l'érosion côtière. C'est justement là qu'on a observé certaines communes bretonnes qui n'ont pas souhaité être inscrites dans ce dispositif. C'est pas forcément surprenant, ça veut pas dire qu'elles sont inactives pour autant.
Non, ça ne veut pas dire qu'elles sont inactives. En fait, pour replacer la loi Climat et Résilience, donc vous en avez donné quelques éléments, mais c'est une loi qui fait suite finalement au cas du Signal, hein, du cas emblématique du Signal. Il y avait une première proposition de loi sur l'année 2016 portée par les députés Gault et Berthelot, qui étaient deux députés socialistes. Et puis, cette proposition de loi a été reprise par la nouvelle majorité, on va dire. Du coup, ça aboutit à la loi Climat et Résilience de 2021, hein, qui concerne pas que le littoral, mais qui crée de nouveaux dispositifs pour gérer l'érosion côtière. Elle traite que d'érosion côtière et pas de submersion marine. D'ailleurs, c'est un petit peu un problème. Et elle est là pour commencer à essayer d'initier une régulation publique des marchés immobiliers littoraux exposés à cette érosion côtière pour justement qu'on commence à avoir une intégration dans les prix de l'immobilier de la dimension exposition à ce risque. Donc voilà, ça crée de nouveaux dispositifs. Donc d'abord, les communes listées par le décret dont vous avez parlé tout à l'heure, elles doivent réaliser une cartographie d'exposition à cet aléa à 30 et à 100 ans. Donc voilà, essayer d'estimer quels sont les biens concernés par l'érosion côtière à ces deux échéances. Ça crée un nouveau droit de préemption qui permet à la collectivité, en fait, de faire l'acquisition publique de biens menacés par l'érosion côtière, avec la possibilité d'appliquer une décote à la valeur des biens concernés, calculée sur la base de leur durée de vie résiduelle, en fait. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui sont créés par cette loi, et aussi une amélioration de l'information préventive à destination des acquéreurs pour que l'information concernant l'exposition au risque du bien arrive beaucoup plus tôt dans le processus d'achat. Donc oui, ça, c'est les améliorations proposées par cette loi. Après, la liste des communes dont vous parliez, l'inscription, elle est volontaire. Les communes, elles peuvent faire le choix ou non d'y être inscrites. Et l'inscription sur cette liste leur permet d'avoir accès à ces nouveaux dispositifs. Il y a des communes qui font le choix pour l'instant de ne pas se positionner sur cette liste pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles attendent peut-être un petit peu de voir comment l'application de cette loi va se passer, notamment en termes de contentieux. Il y a aussi un autre problème, c'est que la loi, elle crée, on va dire, de nouvelles compétences à transférer aux collectivités, mais pour l'instant, sans réel transfert de moyens. Il y a encore un peu de flou artistique sur la question, on va dire, des financements. Et puis, troisième raison pour lesquelles certaines communes attendent un petit peu aussi ou ne souhaitent pas se positionner, c'est que quand elles sont déjà couvertes par un plan de prévention des risques littoraux réalisé par les services de l'État, elles ont déjà finalement un document d'urbanisme qui leur permet de réguler en fait l'urbanisme sur les zones exposées aux risques côtiers sur leur territoire. Donc, elles n'ont pas forcément d'intérêt immédiat à intégrer ces nouveaux dispositifs. Mmh. Voilà.
Dernière question, on a parlé de ce territoire plutôt du côté de La Rochelle-Arcachon dans le sud-ouest, particulièrement concerné par le recul du trait de côte. Ici en Bretagne, j'ai regardé, je crois que c'est un peu moins d'un quart des communes qui se trouvent être sur le littoral. Est-ce qu'on est un territoire particulièrement concerné par ces soucis de risque côtier? Là, j'ai une carte qui date de 2021 devant les yeux, où finalement l'évolution est jugée non perceptible. perceptible sur le territoire breton ?
Ben, la Bretagne, déjà, il me semble que c'est un tiers du linéaire côtier métropolitain. Donc, c'est forcément une région, du fait de cette longueur de linéaire côtier, qui est quand même très concernée par les problématiques de risque côtier. Après, en effet, sur les aspects purement érosion côtière, ce n'est pas la région la plus exposée de France par rapport à ce qu'on peut observer, par exemple, sur les falaises crayeuses de Normandie ou encore une fois sur la côte sableuse d'Aquitaine ou même du Languedoc-Roussillon. Par contre, il y a quand même des petits points chauds en termes d'érosion côtière hein, sur le littoral breton. Et puis, il faut pas oublier toute la dimension, encore une fois, exposition aux submersions marines. Il y a beaucoup de côtes, on va dire, basses en Bretagne, notamment sur la partie sud de la région. Et certes, il n'y a pas d'événement météo marin récent qui est venu rappeler l'exposition du territoire aux submersions marines, comme cela a pu être le cas en Charente-Maritime et en Vendée lors de Xynthia en 2010. Mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement occulter justement l'exposition du linéaire côtier breton à ces risques côtiers.
Je vous représente Eugénie Cazot, vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au laboratoire Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique, pas très loin de Brest, et vous êtes l'invitée du prochain café de l'Espace des Sciences qui aura lieu mercredi 20 septembre à partir de 18h30, ça se passe au Café des Champs Libres à Rennes, et vous serez présente pour parler plus en détail avec le public de ces sujets qu'on vient d'évoquer. Pour plus d'infos, il y a le site internet espace-science.org. Merci beaucoup.
Merci à vous pour cette sollicitation et cet échange.
for a Seagull sur Canal B, un morceau interprété par les Anglais de Téléman. C'était la sélection musicale de l'invité qu'on vient juste de quitter, Eugénie Cazot, docteur en géographie. Ce morceau, vous pouvez le retrouver sur l'album Family of Aliens, qui est sorti en 2018. Et vous êtes où ? Eh bien, vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui va continuer avec une rediffusion. L'échange qui suit, en effet, a déjà été diffusé dans cette émission d'information locale le 5 septembre dernier. Thomas Loubière et Clémence Moulet-Prévost, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thomas, vous êtes le réalisateur du documentaire Prof de fac, la vocation à l'épreuve, c'est à voir sur la plateforme d'Arte, arte.tv. Là, vous nous parlez depuis Paris, depuis la région parisienne. Clémence, vous êtes l'un des personnages de ce documentaire, personnage bien réel, et vous êtes avec nous en studio ici à Canal B. Alors le documentaire, il est sorti au mois de juillet, il est toujours visible en accès libre jusqu'au 5 décembre sur arte.tv. C'est une plongée de 50 minutes entre les murs de l'université Rennes 2, produite par la Générale de Production. Il s'agit de votre deuxième réalisation, Thomas Loubière. Vous vous intéressez en fait à un milieu que vous avez pratiqué d'abord en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que fils de prof, je ne dis pas de bêtises.
Ben non, c'est ça. J'ai un papa qui a enseigné longtemps à Paris 8. Moi, je suis passé aussi par la fac. J'ai étudié là-bas pendant 5 ans la sociologie et la science politique. Et ça a été c'était des années très épanouissantes pour moi. Donc voilà, c'est un milieu, c'est un écosystème, l'université française, que j'avais à cœur d'arpenter, de révéler et puis de raconter le quotidien de ces enseignants-chercheurs, donc ceux qui travaillent, la cheville ouvrière de ces universités, ceux qui donnent des cours, ceux qui font de la recherche, ceux qui sont vraiment au cœur de notre enseignement supérieur français.
Pour tourner, vous êtes donc mis en quête d'une université où poser votre caméra. L'université de Rennes 2 avait l'avantage de cocher plusieurs cases. Vous l'avez pas choisi au hasard, je peux vous laisser dire pourquoi.
Non, je l'ai pas choisi au hasard. Ceci dit, c'est ça qui est intéressant, enfin, qui est éloquent dans ce film, c'est qu'il aurait pu se tourner dans toutes les universités, je crois qu'il y en a 68, enfin environ 70, dans les 70 universités françaises, parce que toutes les universités manquent de personnel, d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif aussi, et manquent de moyens de manière plus générale. Mais Rennes 2 m'a convaincu, enfin en tout cas, voilà, c'est d'abord des rencontres, hein, c'est un film qui se fait sur le temps long. J'ai filmé pendant un an donc Clémence, Colin, Baptiste, enfin, différents enseignants-chercheurs à différents niveaux. Donc c'est d'abord, avant tout, la rencontre avec eux, qui m'a fait poser ma caméra à Rennes. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de filmer une université de sciences humaines et sociales où les conditions de travail sont les plus dures, une université qui défend sa mission de service public, ce qui est le cas aussi à Rennes 2. Et puis bon, il y a aussi un campus, donc visuellement pour un film, moi j'étais content d'avoir parce que le film c'est pas un huis clos, on n'est pas que à l'université, on va aussi chez Clémence, on sort parfois, mais c'est l'enceinte, c'est le décor principal du film. Donc j'étais content que visuellement il y a un campus qui est assez beau, qui est assez accueillant d'ailleurs à Rennes 2, donc ça c'était une raison supplémentaire. Et puis c'est pas trop loin de Paris, et donc comme j'ai fait beaucoup d'allers-retours pendant un an, bah, c'était pas mal aussi. C'est une université de taille moyenne, il y a 20 000 étudiants, donc c'est à peu près, c'est dans la moyenne, c'est une université de taille moyenne.
Une université de taille moyenne, mais avec un des centres de recherche et d'enseignement supérieur en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales le plus important dans l'Ouest. Vous avez donc tourné de juin 2021 à septembre 2022. Il y a aussi ensuite eu tout le temps de montage qu'on imagine pour un film documentaire. Et ce film, il aborde donc deux thèmes. D'abord, celui du recours aux vacataires à l'université à travers votre parcours. Clémence Moulet-Prévost, on vous retrouve dans ce film sur la fin de votre travail de thèse autour de ce sujet, la gestion du patrimoine chypriote. Donc ça représente plus de 7 ans d'études et de recherches. Dans le même temps, là, au moment de boucler votre thèse, vous êtes contractuel, c'est ça ? On explique un peu, parce qu'il y a tellement de contrats différents, de jargon. À quel moment on vous retrouve dans ce film-là ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de types de contrats différents. On me retrouve donc à la rentrée 2021-2022. J'étais sous contrat LRU, donc c'est un contrat à temps partiel de l'université qui rémunère pour des enseignements, des charges de cours, en fait, sur un semestre ou deux semestres. C'est assez variable. Et c'est un type de contrat qui rémunère uniquement pour les cours que l'on donne, pas pour la préparation, pas pour les corrections des copies, les surveillances d'examen, ce genre de choses.
Avec un tarif horaire qui est inférieur à celui du SMIC, c'est vrai ça ?
Alors en fait, c'est un calcul un peu savant qui nous fait arriver à ce constat-là, mais ce constat est vrai. Donc c'est un type de contrat qui rémunère l'heure d'enseignement 40 euros brut. Et quand on soustrait à ces 40 euros brut
la préparation,
l'heure d'enseignement, plus la préparation, plus les copies à corriger, les surveillances d'examen, l'université admet, c'est dans ses petits papiers administratifs, que tout ça, ça représente, pour une heure de cours, c'est à peu près 4 heures de travail. Donc quand on divise 40 euros brut par 4 heures de travail effectif, ben on arrive à un taux horaire inférieur au SMIC.
Des jeunes chercheurs comme vous qui donnent des cours, il y en a beaucoup. Ils dispensent en fait un quart des cours à l'université. Et donc là, ces conditions de rémunération qui sont assez précaires quand même, ça oblige beaucoup à travailler à côté. Ce qui fait qu'on sort de l'université pour vous retrouver dans un musée, Rennais, le plus connu. Et même ce travail-là, vous avez eu du mal à le décrocher. Vous vous mettez la pression pour y rester.
Oui, parce que j'ai cherché longtemps un emploi alimentaire qui puisse se conjuguer à mes activités de recherche, donc pendant ma thèse, et à mes activités d'enseignement aussi, parce que je voulais continuer à enseigner, c'était important pour moi. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un emploi qui conjugue un peu tout ça, et j'ai eu la chance d'obtenir ce contrat au Musée des Beaux-Arts de Rennes, que je salue et que je remercie encore, parce que ça a été une très bonne expérience.
Avec un lien quand même avec
avec un lien tout à fait, mais avec mes recherches, puisqu'en plus ils ont une collection archéologique. Donc j'ai pu travailler auprès des publics, ça a été passionnant pour moi, même si voilà, c'est sûr que c'était fatigant aussi de faire des allers-retours entre la fac, le musée, mes recherches, les enseignements, voilà. Donc c'était des grosses journées.
Moi j'ai pu me permettre de gagner peu parce que je vivais avec quelqu'un qui gagnait confortablement sa vie pour deux, quoi. Seul, je pouvais... Enfin, non. On m'avait parlé beaucoup avec mon compagnon, quoi. J'essayais de lui... Il comprenait, mais lui était dans la position qui était plus facile parce que c'est lui qui gagnait bien sa vie, mais c'est... ô combien difficile de savoir que tu fais ce travail parce que tu peux compter sur des gens et que seul, en fait, tu le ferais pas.
Au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est faut vraiment que ce soit difficile jusqu'au bout, qu'on soit méritant jusqu'au bout,
ouais.
Et vraiment, pour si espérer peut-être qu'on nous dise qu'on est légitime d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Et là, mais non, mais c'est pas possible, quoi.
Quand tu tombes amoureux de ton agresseur, je sais
pas. C'est
voilà.
C'est ça, quoi. C'est le syndrome
je vais
de
aller camper devant la fac.
Extrait de Prof de fac, la vocation à l'épreuve, un documentaire à voir donc sur arte.tv jusqu'à la fin de l'année. Documentaire de Thomas Loubière qui est avec nous aujourd'hui et puis également en studio Clémence Moulet-Prévost qu'on vient d'entendre avec un groupe d'amis également chercheuses. Ça donne à voir que votre cas n'est pas isolé, on parle bien d'une situation générale. Et dans ce documentaire, donc, on voit à la fois votre passion, la fatigue avec plein de casquettes qui sont cumulées et des doutes aussi partagés.
Bah, beaucoup de doutes, je crois que ça fait partie intégrante de la formation en doctorat. Le doctorat, c'est une formation à la recherche par la recherche. On est encadré par un ou plusieurs directeurs de recherche. Et quand ça se passe très bien, ce qui a été mon cas d'ailleurs, on doute quand même énormément de soi, de ses recherches, des résultats qu'on obtient. On sait plein de choses. On peut s'appuyer sur toutes nos recherches et des choses que l'on sait et que l'on peut expliquer facilement. Et en même temps, c'est vrai que c'est un milieu où tout au long de la thèse et même après, hein, puisque j'ai pu en parler avec mes collègues qui sont eux en poste, qui sont titulaires, ça reste le cas aussi après. On a finalement assez peu de retours. on est toujours un peu seul face à nos recherches, à nos résultats. Il faut toujours se battre pour convaincre, se battre pour obtenir des financements, pour pouvoir continuer ses recherches.
Et donc l'objectif, on va dire, final de devenir enseignante-chercheuse peut paraître parfois assez lointain et on peut se demander si on y parviendra.
Oui, alors ça vient peut-être pas tout de suite, puisqu'au début, et c'est ce que cet extrait que vous passez montre un peu, peu importe le milieu d'où l'on vient, moi j'ai pas du tout eu une famille d'universitaires, et c'est vrai que comme mon amie qui, elle, vient d'une famille d'universitaires, je suis arrivée là un petit peu naïvement en me disant « mais voilà, c'est super, c'est ça que je veux faire, c'est ça le sens que j'ai envie de donner à mon métier et à mes activités ». Professionnel. Donc au début, je trouve quand même qu'il y a généralement une forme de naïveté au départ de la thèse où on se dit, bah voilà, je vais faire ma thèse en 3 ans. Allez, 4 ans max, 5 si jamais il y a un problème. C'est les moyennes, ça. Hein. Il y a une loi qui est passée, c'était en 2016, qui a un petit peu réformé le doctorat et qui limite maintenant à 6 ans. Mais avant 2016, c'était pas le cas. Hein. Il y avait pas de. C'était 9 ans. À peu près la limite.
Un temps long qui, du coup, est générateur de doute. Et c'est là que je pose la question à Thomas Loubière. Comment est-ce qu'on filme le doute ? Est-ce que c'est difficile de réussir à se faire oublier avec sa caméra, là, qu'on imagine dans cette scène, dans le salon, pour faire naître des prises de parole spontanées ?
En fait, ce qui est très important dans ces cas-là, c'est d'avoir un lien de confiance entre les protagonistes du film et puis l'équipe de tournage. Donc déjà, on est souvent deux, hein, ou trois maximum, mais on est deux sur le tournage. Donc moi et le ou la chef opérateur. Et l'important, voilà, c'est de se faire confiance. Ça, c'est le temps long aussi. Le temps long filmé sur un an, même un peu plus. Et puis au-delà des moments où on filme, il y a tout un tas de moments où on discute, on déjeune, on se balade, on déambule sur le campus. En fait, on passe du temps ensemble et ce film, on le fait ensemble, en accord les uns avec les autres. Et d'ailleurs, il peut y avoir des moments de friction, des moments de défiance, des moments où on se dit mais jusqu'où on va, comment. Enfin, l'important, et ça c'est aussi une éthique pour moi de documentariste, enfin, c'est de travailler avec les protagonistes du film pour aller au plus proche de ce qu'ils sont, pour essayer de donner une image juste d'eux-mêmes, qui s'y retrouvent à la fin, et effectivement avoir aussi capté des moments qui peuvent être des moments intimes, des moments de fébrilité, et pas pour faire du larmoyant, pas pour faire du misérabilisme, parce que c'est la réalité, comme vient de le dire Clémence, c'est la réalité d'une grande partie de doctorants et de docteurs qui ne trouvent pas de travail à la hauteur de leurs compétences et qui ne trouvent pas de travail et pas de fonction dans la société, enfin de, je sais pas comment le dire, mais qui se sentent pas légitimes, quoi. Donc voilà, il fallait ce degré d'intimité pour rendre compte de l'ampleur du problème.
Le documentaire, il a été réalisé sur l'année scolaire 2021-2022. À la fin de ce film, Clémence Moulet-Prévost vous confie songer à l'enseignement plutôt en secondaire, mais vous décrochez finalement un CDD d'un an comme attaché temporaire d'enseignement à l'université Rennes 2. Les auditeurs, s'ils ont vu le film, se demandent que s'est-il passé depuis.
Donc c'était effectivement un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Et de recherche, puisque ça vous tient à cœur.
C'est ça. Et c'est surtout que c'est le seul contrat à temps complet en CDD de l'université. Et selon moi, c'est un peu le seul contrat digne, puisqu'on est rémunéré, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'inverse des autres contrats, on est rémunéré pour la préparation des cours, les enseignements, les corrections, les surveillances, et aussi pour les activités de recherche qu'on a tout au long de l'année. Donc voilà, j'ai passé une année extrêmement dense en enseignement déjà, parce que j'ai fait 192 heures d'enseignement sur l'année. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant, je n'avais pas le droit de dépasser un certain nombre d'heures sur l'année avec les autres contrats.
Enseignement, le redit, en histoire de l'art et archéologie.
Tout à fait, et voilà, donc une année très dense, aussi parce que j'ai été prévenue un peu tard de ce poste, et que notamment j'ai eu des cours magistraux que je n'avais jamais fait auparavant, qu'il a fallu préparer un petit peu à flux tendu toute l'année. Et ça a été effectivement très difficile. Et en même temps, ça m'a appris énormément de choses, notamment ces séances-là un petit peu difficiles où je me sentais en difficulté par rapport à mes propres exigences, surtout. Hein, ça m'a énormément appris sur les dynamiques de l'enseignement, le rythme d'apprentissage des étudiants, ce qui marche pas. Voilà, c'est ça que j'aime aussi énormément dans ce métier, et c'est ça qui me confirme que j'adore ce métier d'enseignant-chercheur. C'est que, notamment pour la partie enseignement, on est tout le temps en train de s'adapter, on est tout le temps en train de se corriger soi-même, d'essayer de faire mieux la séance d'après.
Et il s'agit d'un contrat donc qui vient tout juste de se terminer, qui n'a pas été renouvelé. Il se passe quoi après ?
Oui, voilà, ça n'a pas été renouvelé. C'est un contrat d'un an qui est renouvelable une fois pour les non-fonctionnaires. Et il se trouve que mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai donc terminé mon contrat le 31 août. Et là, aujourd'hui, hier plutôt, je me suis inscrite à Pôle emploi.
Est-ce que le secondaire est toujours dans votre tête ?
Le secondaire est toujours dans ma tête. Je n'ai pas de concours ni CAPES ni agrégation. Donc ça, c'est... quelque chose qui me trotte effectivement beaucoup dans la tête. Le concours, c'est en février, mars, donc il va falloir songer à ça. Mais dans un premier temps, j'ai d'autres projets en cours, notamment d'obtenir la qualification pour être maître de conférence. Et ensuite, je travaille aussi depuis cette année, en fait, en même temps que mon contrat ATER. Je travaille sur un projet de demande de financement pour un postdoc. Le postdoc, c'est un contrat uniquement recherche.
Après la thèse, une fois qu'on a fait
sa thèse, tout à fait. Pour faire un projet de recherche pur. Et là, moi, j'aimerais postuler à un financement européen pour financer un projet sur 2 ans.
Toujours à Chypre ?
Toujours à Chypre.
Je reviens vers Thomas Loubière pour quelques dernières questions sur le second volet du film, on va dire un film toujours à voir sur arte.tv. Ce deuxième volet du documentaire, il se déroule en fait en compagnie des deux co-directeurs du département Histoire de l'art et archéologie de l'université à Rennes 2. Alors déjà, on découvre que diriger un département, moi je pensais qu'on était mieux rémunéré, pas du tout, on bénéficie d'une décharge donc de 25 heures, où on n'est pas face aux étudiants, mais plutôt en train de gérer des tâches administratives qui s'accumulent d'ailleurs. C'est ça qui est un peu décrit dans votre documentaire, Thomas Loubière, une augmentation des tâches administratives, des élèves parfois procéduriers aussi.
Oui, alors donc voilà, c'est un peu les deux volets de l'université, enfin des enseignants-chercheurs. Il y a ceux qui, comme Clémence, donc les vacataires, et qui quand même donnent un quart des cours à l'université, sont mal payés en contrat déterminé. Et le deuxième volet, c'est effectivement ceux qui sont titulaires. Donc eux, ils sont fonctionnaires, ils ont un salaire, ils n'ont pas de problème de précarité. Hein, mais
par contre, il y a d'autres difficultés qui arrivent.
Il y a d'autres difficultés, c'est une forme de crise de sens, c'est-à-dire que normalement, ils pensaient enseigner et faire de la recherche, hein, c'est un peu 50-50, et en fait, ils se retrouvent, c'est ce que Colin dit à un moment dans le film, un des deux directeurs du département, il dit, il y a 50% de recherche, 50% d'enseignement et 50% de tâches administratives. C'est-à-dire qu'en fait, face à ce manque de moyens et à ce manque de personnel que connaît l'université, les enseignants-chercheurs ont de plus en plus de tâches à absorber, dont une partie qui n'était pas censée leur être dévolue, c'est des tâches administratives, donc créer des emplois du temps, réorganiser des maquettes de cours, répondre à des mails, gérer les travaux qu'on va faire dans le bâtiment B ou C cette année, qui va dans quelle classe. Enfin, il y a tout un tas de tâches invisibles que les enseignants-chercheurs font. Alors, il y a un peu de personnel administratif à l'université, mais tout le monde est en sous-effectif. Donc voilà, ils croulent sous l'eau. Et donc, effectivement, être aujourd'hui à l'université, être directeur ou co-directeur d'un département, eh ben, en fait, c'est une tannée. Donc, on arrive à une situation ubuesque à l'université de Rennes 2, là, dans le département que j'ai suivi. C'est que personne ne veut diriger le département d'histoire de l'art. Colin et Baptiste, c'est des mandats de 2 ans. Ils arrivent en fin de mandat et personne ne veut les remplacer. Il y a une forme de désillusion qui est terrible, quoi, dans ce constat. De désillusion, d'abattement et de se dire chacun pour sa pomme, c'est trop dur, il y a la souffrance au travail est réelle, elle est tellement là, elle est tellement présente que C'est des stratégies de repli. Chacun essaye de sauver sa pomme au sein de l'université française, quoi.
Des questions, en tout cas, qui sont particulièrement d'actualité là en cette rentrée scolaire, en début du mois de septembre, et à explorer dans un documentaire de 50 minutes. C'est à voir sur arte.tv jusqu'au 5 décembre prochain. Le titre du documentaire, Prof de fac, la vocation à l'épreuve. Vous l'avez réalisé, Thomas Loubière, et dedans, on y découvre Clémence Moulet-Prévost, qui était aussi en studio ici à Canal B. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci beaucoup.
Bah merci.
I Want From You par Jalen Ngonda sur Canal B 94.0. Peut-être êtes-vous en train de l'écouter en ligne sur le site canalb.fr. Ce titre, c'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et qui est issu de l'album Come Around and Love Me. C'est sorti le 8 septembre chez Dapton Records et c'est le premier disque de ce chanteur et compositeur soul venu des USA mais installé à Liverpool. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Je redis un mot, tiens, sur cette newsletter que j'ai lancée depuis la rentrée, un courrier d'information hebdomadaire, ça s'appelle le courrier de La Reine, une façon de vous tenir au courant des sujets évoqués dans cette émission. À chaque fois, je sélectionne un reportage, une interview et une info du jour. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et chaque jour, on termine avec des conseils d'événements à vivre, de choses à écouter, lire ou voir. La recommandation d'aujourd'hui, c'est la fête de l'automne de Vers-le-Jardin. Ça se passe mercredi 20 septembre à partir de 15h dans le square Thérèse Claire à Rennes. C'est le nouveau nom du square de la Richardet près de Clémenceau, renommé pour rendre hommage à Thérèse Claire, cette figure féministe dont ce lieu a été aménagé à la fois un jardin partagé mais aussi une nouvelle ère de jeu. Tout ça, ça s'est passé dans le cadre de la saison 4 du budget participatif de la ville de Rennes. Et voilà le moment de l'inauguration de ce square, mercredi 20 septembre, lors d'une fête de l'automne. Rendez-vous pour vivre ce moment à partir de 15h pour découvrir donc le programme concocté par Vers le Jardin, l'association qui animera le jardin partagé qui s'appelle le Jardin Violette. au menu de l'après-midi, des animations autour du compost, des visites du jardin et de la nouvelle aire de jeu, des plantations, des jeux sensoriels, un troc de graines ou encore un buffet automnal. Tout le programme est à retrouver en ligne sur le site verslejardin.fr et je ne l'ai pas dit mais c'est gratuit. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.